Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
C'est parti pour la deuxième tranche du magazine Okapi Service. En direct de la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération à Kinshasa. Alors si vous êtes à côté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes là et nous parlons dans cette deuxième partie de l'émission du rôle de l'ingénieur civil dans les développements du pays. Nous allons recevoir tout à l'heure Monsieur Charles Médard Ilunga, ingénieur civil en construction et directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux. Monsieur Charles, bonjour.
Bonjour.
Voilà, il n'est pas seul. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Jean-Bernard Chassouma, ingénieur civil mécanicien. Bonjour. Et nous avons également Monsieur Munga Alembe, ingénieur civil mécanicien et directeur des études et développement à la CGT. Monsieur Munga Alembe, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, et merci à vous qui êtes là dans la salle aujourd'hui pour participer à cette émission spéciale au Capi Service. Sylvain Matundu à la mise en onde, Sylvain Baugwere et travaille avec lui, Tatima Puku, Nico Kalambay, Nounou Ngoy, Pitakuta, toute l'équipe est en place pour vous servir en direct de la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération. Merci de votre fidélité à Radio Okapi.
De 19h15 à 20h, Radio Okapi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiokapi.net.
Bien, quel est le rôle de l'ingénieur civil dans le développement du pays? On entend souvent parler de métier d'ingénieur. Parfois, on ne maîtrise pas trop ce que c'est là, de quoi il s'agit. Alors, d'après nos sources, c'est un métier aux multiples facettes. Les ingénieurs exercent dans tous les secteurs d'activité qui sont concernés par le développement, la modernisation. En l'occurrence, on peut citer par exemple dans les domaines industriels et des infrastructures. Alors, quel est le rôle et la fonction de l'ingénieur? Ses domaines de compétences, quel est son apport dans le développement du pays? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions avec nos invités qui sont sur ce plateau. Je m'en vais directement poser cette question à M. Charles Médard Ilunga, qui est ingénieur civil en construction et directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux. M. Charles, dites-nous qui est un ingénieur civil et quel est son rôle?
Merci. Merci d'abord de l'intérêt que vous portez depuis déjà plusieurs mois sur la contribution de l'ingénieur civil dans notre pays. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, pour essayer de parler de l'ingénieur civil, parler de l'ingénierie dans toute sa pluralité et parler du cursus même de l'ingénieur, parce que, vous savez, pour bien définir, pour que les parents qui nous écoutent, qu'ils arrivent à saisir ce que c'est un ingénieur civil, il faut d'abord dire un petit mot sur les cursus, sur la formation même de l'ingénieur. L'ingénieur civil, c'est un être un peu, je peux dire, doué, un élément assez doué de la société, que la société reçoit et à qui la société veut confier un certain nombre de missions. L'ingénieur civil est formé à travers une rigueur scientifique. C'est comme ça qu'à travers les troncs communs, quand je parle de l'ingénierie qui est plurielle, à travers les troncs communs, l'ingénieur civil a d'abord un socle. C'est le socle d'outils mathématiques, d'outils scientifiques, d'outils physiques, chimiques. C'est ça qui permet à l'ingénieur civil de pouvoir avoir beaucoup de capacités d'abstraction, beaucoup de capacités d'innovation et qui lui permet de saisir des solutions beaucoup plus complexes et de faire face, bien sûr, à la recherche pour répondre à ce que la loi fondamentale lui demande et qui lui permet facilement de se mouvoir dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça que vous retrouvez facilement l'ingénieur civil avec tout ce qu'il a comme formation dans les mathématiques appliquées, dans les formations dans la modélisation qui lui permet d'appréhender des réalités complexes de la vie. L'ingénieur civil intervient dans de grandes chaînes d'industrialisation. Il intervient dans la conception des grandes infrastructures. L'ingénieur civil intervient dans le pilotage de grands projets. L'ingénieur civil intervient dans la modélisation des trafics, dans la prédiction. Donc l'ingénieur essaie de prédire. Il essaie d'éviter les aléas, il essaie d'aider la société dans les différents domaines d'ingénierie. Et là, l'ingénierie, j'ai dit, elle est multiple. On retrouve des ingénieurs dans les génies civils, oui. Des ingénieurs dans les génies chimiques, des ingénieurs dans les génies miniers, pétroliers, les génies donc les géologues dans la pétrographie, et aujourd'hui de plus en plus on parle des ingénieurs civils mathématiciens pour dire que l'ingénieur civil, il peut, au regard des différences du socle solide des mathématiques, d'outils, des modèles qu'il a, l'ingénieur civil appréhende des grands problèmes. On les retrouve dans les finances, on les retrouve facilement dans, vous l'avez dit, dans l'ingénierie, dans l'informatique, oui. Les grands problèmes complexes des assurances, les problèmes de trafic. Donc l'ingénieur, il est multiple. Tantôt, quelqu'un a dit, on retrouve des ingénieurs, ils sont dans les approvisionnements. Oui, c'est parce que, au regard de sa formation, l'ingénieur a des capacités de conceptualisation. C'est ça qui fait de l'ingénieur civil sa particularité, mmh. Et c'est ça qui fait qu'on les retrouve dans des grandes chaînes. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire, lorsque on parle de la conception d'un bâtiment, c'est si simple. Je sais par exemple que déjà un étudiant de troisième graduat sait faire, pour parler du génie civil, une descente simple des charges. Il sait faire l'évaluation des charges sur une structure, 3 étages, 4 étages, avec beaucoup de facilité. Mais quand on commence à avancer, au fur et à mesure, vous savez, les calculs, c'est tout le monde qui peut le faire. Dans tous les domaines d'ingénieurs, oui. Dans tous les domaines d'ingénieurs, les calculs, tout le monde le fait. Mais c'est toujours à un certain niveau de complexité. Aujourd'hui, quelqu'un a dit ici que c'est un ingénieur qui a conçu le pont Makelele. Mais je vais vous dire que le bureau d'études Kadisek avait des ingénieurs civils en son sein. Donc la conception des grands ouvrages, c'est essentiellement l'œuvre des ingénieurs civils.
Voilà.
Donc, d'accord. Nous pourrons en parler en détail.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Jean-Bernard Tchassouma, vous êtes ingénieur civil mécanicien. Alors, dites-nous, quel est le travail d'ingénieur civil mécanicien et quel est son apport dans le développement du pays?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais d'abord que l'on précise que le DG de l'Agence congolaise de grands travaux, c'est lui le président du conseil d'administration de l'ASIC. L'ASIC, c'est l'Association congolaise des ingénieurs civils. D'accord. Qui a porté la proposition de loi créant, organisant l'Ordre des ingénieurs, qui est passée à l'Assemblée nationale jeudi dernier, qui a été, comme dans le jargon de député, dit recevable. Voilà. Moi, je suis le secrétaire général de la dite association. Eh bien, j'aimerais, en tant qu'ingénieur civil mécanicien, insister sur le fait que tout ce qui est à côté de nous, les vêtements que nous portons, les téléphones que nous utilisons, les bâtiments, les matériaux, derrière tout ça, il y a l'ingénieur civil. La bouteille d'eau, il y a l'ingénieur civil. La production de l'eau, l'ingénieur civil. L'électricité, l'ingénieur civil. Ce que nous mangeons, l'agriculture, il y a l'ingénieur civil. Je vais prendre juste un exemple pratique. J'aime, c'est ce qu'on nous a appris à l'université, il faut être pratique. Je prends l'exemple de la production minière. Déjà, quand on veut formaliser, on constate qu'il y a du minerai quelque part, il y a un géologue qui est là. Il amène les données du sol, et dans l'arsenal pour arriver à créer une entreprise et à se dire que nous devons produire autant de concentré de cuivre ou bien autant de cuivre métal, de l'abattage de minerai au sous-sol, ça peut être le minerai qui a un filon qui peut s'étendre. Je prends un cas pratique là où j'ai travaillé, à Sodimico. Le filon traverse et la RDC et la Zambie. Mais au niveau de la RDC, il faut exploiter ce filon. Ça signifie...
C'est quoi le filon?
Le filon, c'est... comment on dit? C'est le minerai. C'est le minerai dans lequel se trouve le cuivre.
D'accord.
Ok. Alors, avant qu'on arrive à créer même cette entreprise, il faut que les ingénieurs civils de mine, les ingénieurs civils métallurgistes, trouvent que le minerai à exploiter produira un rendement. Parce qu'il ne faut pas construire, créer une entreprise alors que le taux de rendement, il est faible, vous allez investir de l'argent pour rien. Alors, tous les ingénieurs civils, les mineurs, les métallurgistes, le métallurgiste qui doit savoir quel est le concentré du minerai, le mineur qui est au fait l'équivalent de l'ingénieur en construction civile, parce qu'il doit dire, voilà, le skip, donc l'ascenseur qui doit récupérer le minerai abattu dans le bas, pour le remettre à la surface de sol, et à l'extérieur, l'amener au concentrateur. Au concentrateur, il y a des ingénieurs en chimie industrielle, il y a des ingénieurs métallurgistes, vous comprenez? C'est tout ce sens-là pour que finalement, quand la société sera créée, quand les investisseurs, les économistes voudront dire que c'est exploitable, donc à ce moment-là, toute la classe des ingénieurs arrive à produire, à créer, à mettre à la disposition des financiers que voilà, nous pouvons créer cette entreprise et produire le minerai dont l'État a besoin et peut retirer de la valeur ajoutée pour l'économie de notre pays.
Alors Jean-Bernard Tchassouma, on comprend que le travail de l'ingénieur civil touche plusieurs domaines à la fois.
Plusieurs domaines.
Alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette expertise puisse contribuer efficacement au développement national de notre pays?
Je vais vous dire sans mâcher mes mots, et je demande à tous les collègues, architectes, ingénieurs BTP, ingénieurs civils, nous devrons nous fédérer pour dire non à ce qui se passe au pays. Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Rassurez-vous, nous sommes en train d'attendre un gouvernement. Il n'y a que les juristes et les économistes qui parlent. Il n'y a aucun ingénieur, aucun architecte. C'est révoltant. Et, pour ma part, ça c'est à titre personnel, je pense que les secteurs qui nous concernent, si nous voulons que le pays y trouve le compte, tous les corps de métier, architectes, ingénieurs BTP, ingénieurs civils, doivent piloter, comme le président l'a dit, tous ces ministères-là. Et le plus important, peut-être le président va en dire plus, c'est au sujet de la planification. Nous faisons du n'importe quoi et en désordre. Donc, sans cela, monsieur Jody, je vous dis, si le politique ne comprend pas l'importance de ce corps de métier, on va tourner en rond des années durant.
Voilà. Monsieur Mounga Alembe, vous êtes aussi ingénieur civil mécanicien et directeur des études et développement à l'Agence congolaise des grands travaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au rôle de l'ingénieur civil dans le développement du pays?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord compléter le collègue Tchassouma sur une question que vous lui avez posée tout à l'heure, parce que je suis effectivement ingénieur civil mécanicien. Et la particularité du travail de l'ingénieur civil mécanicien par rapport à d'autres ingénieurs civils et peut-être à d'autres ingénieurs, je voudrais ici rappeler, comme l'a dit monsieur le président du conseil d'administration, qui est mon DG à l'agence congolaise de grands travaux, que l'ingénieur civil travaille dans l'industrialisation, il travaille aussi dans l'infrastructure, qui sont des domaines de développement au niveau du pays. Et lorsqu'on parle de l'industrie...
Quel type d'infrastructure? Pas seulement dans les bâtiments?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a l'infrastructure, bien sûr, dans le bâtiment, il y a des infrastructures routières. Est-ce que vous savez que dans d'autres pays, le ministère d'infrastructure s'appelle ministère d'équipement et transport? Donc, pour dire que ça ne se réduit pas seulement aux seules routes, parce que si, dans ce pays, lorsqu'on parle de l'infrastructure, on a l'impression de ne voir que la route. Et lorsqu'on voit la route, on a l'impression qu'un projet routier, on se cramponne à l'aspect de l'infrastructure sur laquelle on est en train de rouler les véhicules, les engins, les personnes se déplacent. Alors que même un projet routier est un projet très complexe qui n'a pas que l'infrastructure routière comme étant équipement à utiliser. Alors je parlais du rôle de l'ingénieur civil mécanicien dans l'industrialisation et dans l'infrastructure. Lorsqu'on parle de l'industrialisation, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'industrie, il y a tout ce qui est comme équipement dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie minière, dans l'industrie des transports ou dans toute autre forme d'industrie, vous trouverez des engins de manutention, des engins de transport. Et l'ingénieur civil mécanicien, parce qu'il y a un de jeunes étudiants qui a fait allusion, la loi cadre assigne aux institutions universitaires la formation de cadre de conception. Et donc, lorsqu'un mécanicien se retrouverait dans ce cadre professionnel, un de ses rôles, c'est de faire la conception, c'est de faire l'organisation, la planification, et même la production, l'utilisation de l'outil, de l'outil de transport, des outils de manutention. Quand vous allez dans des mines, vous avez des grands engins. Vous avez de grands engins. Et il faut planifier l'acquisition. Il faut pouvoir étudier, pouvoir définir les critères d'acquisition de ces engins eu égard à leur affectation. Et ça, c'est le travail notamment d'un ingénieur civil mécanicien. Vous avez dans l'infrastructure de production de traitement de l'eau, vous avez toute une sorte de machinerie, vous avez des équipements, de pompes. Et l'ingénieur mécanicien, il est dedans justement pour travailler à la conception, à la réflexion, à la gestion, à la planification de l'utilisation de cet outil de production. Parce que qui parle industrie, on ne peut pas parler industrie sans pouvoir parler notamment les machines.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, pour que l'ingénieur civil participe au développement, il faut une planification. Nous allons recueillir tout à l'heure les questions dans la salle. Je m'en vais rapidement lire quelques réactions des auditeurs, des internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Narcisse Mouchiza nous dit ceci: nous devons laisser les débats d'école et travailler ensemble. Topographe, architecte, ingénieur BTP, ingénieur civil, ingénieur technicien, travaillons tous ensemble. Jordan Kalimba Limba Mbandaka nous dit: ici les gens construisent des maisons sans même consulter les ingénieurs et même pas les architectes. La raison est que les ingénieurs et architectes demandent beaucoup d'argent. Narcisse Mouchiza nous dit ceci: il y a toujours eu cette guerre cherchant à savoir la différence entre les ingénieurs civils et les techniciens. La population a besoin de savoir ce que vous pouvez faire ensemble. Nous n'avons pas besoin d'écouter des guerres internes et de ceux qui ont des projets à construire. Voilà. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ce qui a été dit, le rôle de l'ingénieur civil dans le développement du pays? Oui, bonjour, votre nom et la question. Voilà, nous sommes dans la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération.
C'est San Mona, le candidat ingénieur civil.
Okay.
Moi, j'adresse ma question au président Charles Médard.
Oui.
Moi, je pose la question par rapport au comportement que doit avoir aujourd'hui un ingénieur civil. Parce que tout à l'heure, le collègue Jonas nous a dit le mission de l'université, et entre la triple mission qu'a l'université, il y a la recherche. Et pour faire la recherche, il faut de l'argent. L'argent, c'est une politique au niveau national. Et c'est ça qu'il n'y a pas, justement, et c'est carrément difficile aujourd'hui de faire la recherche. Bien sûr, c'est l'une des missions que nous avons en tant qu'ingénieurs. Alors, quel est le comportement que nous devons adopter en ce moment-là? Parce que, par ailleurs, si nous sommes arrivés au niveau de débattre sur le profil de chacun et de chacune, c'est tout simplement parce que nous n'assumons pas correctement toutes les missions qui nous sont assignées. Quel doit être en ce moment-là notre comportement et qu'est fait justement la SIC pour pallier à ces problèmes?
D'accord, merci. Nico?
Nicolas Mancia, architecte. Ma question porte sur les rôles de l'ingénieur civil dans le développement durable. Bon, le développement durable, c'est aussi la gestion rationnelle des ressources et la planification aussi de l'avenir. Alors, comme nos amis quand on était en train de différencier l'ingénieur civil et l'ingénieur BTP, les amis ont souligné l'aspect recherche. Alors, moi, je pose la question au président. Actuellement, dans notre pays, je ne vois pas les fruits des recherches des ingénieurs civils dans les secteurs des bâtiments. Voilà ma question.
D'accord, merci. Oui, Nono?
Voilà. Je suis Anderson Bokambwa, candidat ingénieur civil. Ma question va à l'endroit du président du conseil d'administration de la SIC. Nous avons un problème dans notre société, c'est que l'ingénieur civil n'est pas vu comme tel. Lui qui pourtant est un acteur indispensable du développement. Et l'une des raisons, c'est que il n'y a pas une politique nationale derrière cette valorisation de l'ingénieur civil. Ça veut dire que le projet où l'ingénieur civil devait avoir sa place sont orientés vers l'expertise internationale. Je prendrai l'exemple des études sur l'ensablement sur modèle réduit du canal d'Inga. Ce sont des études que pouvait faire la faculté polytechnique, mais le pouvoir national et le pouvoir public préfèrent confier ça à l'expertise nationale, internationale. Alors, est-ce qu'il y a dans l'ordre, puisque nous en avons parlé, des dispositions qui permettent de mettre fin à cette confusion qui pourra aussi ce qui pourra aider de mettre la distinction, parce que ce sont là des travaux de prédilection de l'ingénieur civil.
Merci. Votre nom et la question?
Ouais, moi, c'est Monsieur Justin Matadi, je suis architecte. Ma question va...
Parlez un peu plus fort.
Ma question s'adresse au panel.
Au panel, oui.
Nous sommes en face des ingénieurs civils. Je voudrais savoir, face à la situation que connaît notre pays, un pays qui fonctionne sans ordre socio-professionnel, sans standard, quelle est votre attitude vis-à-vis des autres professionnels qui rentrent dans ce qu'on appelle le built environment, c'est-à-dire les architectes et puis les autres intervenants dans le domaine du bâtiment? Quels sont les types de rapports que vous entretenez? Merci.
Bien. Oui, Tati, de l'autre côté, rapidement.
Okay, merci beaucoup. C'est le candidat ingénieur Jules Tuité. Je voulais premièrement rappeler une petite histoire. La Gécamine avait connu un grand problème. La mine des Kamoto était noyée. Et le Belge avait dit qu'il fallait une année et 6 mois pour qu'on commence encore l'exploitation. Et à cette époque, c'est la Gécamine qui supportait 80% de notre économie. Les ingénieurs en mine et d'autres ingénieurs, ils ont étudié, ils ont proposé au président Mobutu que dans 3 mois, c'était possible qu'on puisse reprendre avec l'exploitation. Et ça s'est réalisé, on a donné de moyens. Et c'est le premier noir qui est devenu DG de la Gécamine, c'était l'ingénieur civil Bolindambo, pour cette histoire. Alors, l'ingénieur Médard est en train d'insister sur la capacité. Ce n'est pas la capacité qui nous manque, c'est le moyen. Et le moyen, ce n'est pas l'ingénieur civil, c'est la politique. Alors.
Oui, quelle est la question que vous adressez au panel?
La question, c'est. J'allais juste poser la question. Quand on est en train de parler de l'émergence 2030, on a consulté les ingénieurs. C'est juste une question que j'adresse à l'ingénieur Médard. Parce qu'on ne comprend rien. Avec tout ce qu'on est en train de voir, on peut même prédire que c'est impossible. Est-ce qu'on a eu le temps.
Qu'est-ce qui est impossible? L'émergence du Congo,
l'émergence.
D'ici 2030.
Horizon 2030, oui.
Oui.
par rapport à tout ce qu'on est en train de voir. Alors, je pose la question à l'ingénieur Médard. Est-ce qu'on a eu le temps de vous consulter? Et puis, quelle était votre position? Quand vous êtes en train de suivre à la télé, on vous parle de l'émergence 2030. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Charles Médard, Ilunga, vous avez la parole.
Merci. Merci des multiples questions. Je crois que d'abord, ce que je dois dire pour l'ensemble des intervenants, les différents acteurs, vous savez qu'aujourd'hui, à travers le monde, la synergie est un principe majeur lorsqu'on doit, n'est-ce pas, réussir tout projet. Donc, les acteurs doivent être bien identifiés et nous avons toujours dit que l'ingénierie est un processus qui appelle la collaboration intime de tous les acteurs. L'ingénierie procède toujours de la conception, l'ingénierie passe par la réalisation, et justement en ayant des mécanismes de contrôle efficaces. Donc nous voulons que chacun des acteurs soit utilisé de manière efficiente. Nous avons besoin que l'architecte, voilà pourquoi nous plaidons toujours pour qu'il y ait aussi un ordre des architectes. Nous pensons que le secteur doit être réglementé. Nous pensons que l'ingénieur ne peut pas, moi ingénieur civil constructeur, je ne peux pas m'hasarder à faire le travail d'un architecte. Je respecte la place d'un architecte et donc nous avons besoin que dans cette collaboration, les uns et les autres collaborent efficacement. Voilà pourquoi aussi nous voulons qu'on reconnaisse l'importance de l'ingénieur civil, qu'on reconnaisse sa place dans la conception, sans laquelle, vous savez que la conception est une responsabilité. Lorsque demain l'ordre va passer, nous, ingénieurs civils, nous acceptons la responsabilité des Cénales, que vous connaissez très bien, qui frappe tout concepteur lorsque, demain, vous êtes accusé d'un défaut de conception. Donc, s'arroger le droit de concevoir, c'est tout simplement une difficulté. Il faut essayer de contourner cette difficulté. C'est une responsabilité. L'ingénieur civil doit l'assumer jusqu'au bon. Alors, maintenant, par rapport à nos politiques dans l'association, aujourd'hui, la SIC a besoin de contacter tous les décideurs politiques, contacter tous ceux qui interviennent, pour qu'ils comprennent l'importance de l'ingénieur civil par rapport à tout ce qu'il peut apporter. Des pays comme la Chine, qui sont aujourd'hui des pays émergents, la Chine, l'Inde, sont en train d'expérimenter les grandes transformations sur 35 ans. La Chine est en train de vivre les plus grandes transformations de l'histoire dans les domaines du génie, de l'ingénierie, c'est depuis 35 ans. Donc nous voulons qu'on comprenne que l'ingénieur civil mieux utilisé, l'architecte mieux utilisé, l'ingénieur technicien mieux utilisé, collabore efficacement au progrès et au développement dans un pays. Et ça, nous pensons que c'est un schéma qui est en train d'être organisé. Et nous voulons que dans tous les secteurs de la planification, vous savez que les grands avantages, je l'ai dit, pour un ingénieur civil, c'est savoir saisir les événements dans leur complexité et savoir y apporter des solutions. Alors, vous posez la question, quels sont les fruits aujourd'hui de la recherche? Quels sont les fruits
dans les secteurs de bâtiment?
Non, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que nous parlons très peu et on connaît très peu ce que fait l'ingénieur civil. Je vous ai dit que l'ingénieur civil, la recherche porte sur quoi? Il ne faut pas toujours qu'il y ait de l'invention. Je parle de l'innovation. L'innovation suppose que nous voulons apporter de la valeur ajoutée dans les matériaux, dans les concepts, dans les process. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs à TFM qui travaillent essentiellement dans l'amélioration des process, dans l'amélioration des procédures, dans l'amélioration et même dans l'élaboration des normes. Donc les ingénieurs, dans la recherche, ils apportent déjà beaucoup dans l'efficacité énergétique. Vous savez, aujourd'hui, quand on débat de la question des cimenteries, je crois que les ingénieurs sont en train de réfléchir sérieusement sur la question de l'efficacité énergétique. La cimenterie, oui, mais pour quelle efficacité? Pour que les coûts de production soient minimisés. Donc ce sont des questions qui sont débattues et auxquelles on essaie de trouver des solutions.
D'accord. Alors, oui. Alors Jean-Bernard Tchassouma, par rapport à la question qu'un intervenant a posée tout à l'heure, on parle de Congo émergent d'ici 2030. Alors, il pense que ce n'est qu'un simple slogan. Parce que d'après lui, il n'y a pas de politique dans ce secteur pour encadrer, mieux encadrer les ingénieurs civils.
Non, l'étudiant n'a pas tort. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, au niveau de la présidence de la République, il était question qu'on envoie une cinquantaine d'ingénieurs en Corée du Sud pour une formation de 30 jours. Vous savez, les 50 personnes étaient composées de qui et de quoi? 3-4 ingénieurs civils, alors qu'il était question que la plupart, la moitié de nos compatriotes qui soient ingénieurs civils. Malheureusement, ils sont revenus. Le projet est resté dans les tiroirs. C'était un projet concernant le pont, les ports en eau profonde. L'étudiant n'a pas tort. Pourquoi l'ingénieur civil n'a pas été consulté? Et ça, c'est grave. C'est une interpellation. Je pense que au niveau de la SIC, avec le nouveau gouvernement qui va bientôt arriver, nous allons nous battre pour que si le Congo doit être émergent en 2030, il faudrait des postes comme le ministère du Plan soit occupé essentiellement par des ingénieurs civils. Je prends un cas. Le ministère de Transport. Rassurez-vous, il n'y a aucun ingénieur civil. Et c'est très grave. Donc tout ce qu'il y a eu comme acquisition de locomotives au niveau de Lubumbashi, c'était un achat mal négocié. Mal négocié. Je prends...
Les ingénieurs civils n'ont pas été associés?
En tout cas, ils n'ont pas été associés. Ils n'ont pas été associés. Et aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on a gaspillé parce que certaines de ces locomotives sont arrivées à Lubumbashi et ne roulent pas. Donc il y a des ministères clés qui doivent faire en sorte que nous, ingénieurs civils, cette interpellation, qu'on exige que dans des ministères clés, même si on ne veut pas nous donner les postes de vice-ministre, ministre, mais qui est au niveau des conseillers des ingénieurs civils. J'ouvre juste une parenthèse pour parler un peu de moi. Je me suis retrouvé conseiller au niveau du ministère du Plan. Il y a certains dossiers qui n'étaient pas très bien gérés par les conseillers, mais quand le ministre m'a confié, il a senti que il y avait le tact, le flair de l'ingénieur civil. Tous les rapports que je lui faisais à ce propos, en tout cas, c'était des rapports pertinents.
C'est d'accord.
Je soutiens. Il faut que, au niveau de la SIC, qu'on fasse un effort pour que l'émergence 2030 sur ce projet-là que l'ingénieur civil soit.
D'accord. Monsieur Mounga Lembe, ingénieur civil, mécanicien, directeur des études et développement à la CGT. Alors, on a parlé de l'innovation. L'ingénieur civil innove. Qu'est-ce que vous avez déjà innové dans notre pays qui démontre que les ingénieurs civils travaillent effectivement?
Ok, merci. Avant d'arriver à la question de l'innovation, je voudrais rapidement m'attaquer à quelque chose que j'ai toujours considéré comme étant des idées conçues et qui bloque non seulement l'ingénieur civil, l'ingénieur, mais aussi l'intellectuel congolais. C'est ce genre d'idées telles que on ne peut pas faire de recherche, on ne peut pas produire sans argent. Je voudrais qu'on retienne dans cette salle, mais aussi ceux qui nous entendent, les auditeurs, qu'il y a un principe fondamental, il y a un adage fondamental qui veut que les idées précèdent la richesse. Il faut qu'on le sache. Les idées précèdent la richesse. Et ceux qui savent organiser les idées travaillent avec l'argent des autres. Il faut qu'on le retienne. Et on ne peut pas se passer des longueurs de journée à faire des jérémiades, à pleurer. On ne nous a pas moyen de donner de moyens. Non. Est-ce que vous avez des idées susceptibles de bousculer le monde et d'obtenir de richesses? Je crois que ça, c'est très important. Il faut qu'on le sache.
Et d'accord, il faut qu'on le sache.
Et tant que nous resterons, nous, les intellectuels, les ingénieurs, à pleurnicher derrière le manque d'argent, je crois que nous-mêmes, le développement de ce pays, nous n'allons pas l'obtenir. N'oubliez pas que derrière le mot ingénieur, il y a le terme ingéniosité, qui est la capacité d'ajouter de la valeur, la capacité de tirer les meilleurs profits des ressources disponibles. Les ressources disponibles peuvent être insuffisantes. N'oublions pas que les grands développements dans ce monde ont été réalisés en temps de crise, au moment où souvent les gens étaient dans une situation d'insuffisance des ressources. C'est souvent des périodes qui ont suivi la guerre. Et donc, il faut qu'on retienne bien cet aspect-là. Des innovations. L'ingénieur, qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de vous, ingénieur civil? C'est qu'il y a un problème qui se pose dans la société. J'ai connu un professeur d'anglais, en première et deuxième, paix à son âme, il s'appelait Kyé Dibilombo. C'était un chef de travaux à l'école de langue à l'université, qui nous disait toujours « solution of engineer is optimizing ».
C'est-à-dire?
On dit que l'ingénieur est la personne qui donne des solutions optimales. Les solutions optimales ne sont pas forcément les meilleures solutions. Mais ce sont des solutions qui s'adaptent à la situation, des solutions qui sachent utiliser les ressources disponibles. Je prends un cas. Vous concevez, nous venons de réaliser une route de 15 km à Kinshasa. La plus grande avenue.
Laquelle ?
Et la plus grande avenue et la plus longue, le boulevard Lumumba. On se retrouve devant une équation, on dit, il faut éclairer ce boulevard parce que la nuit il fait sombre. Et nous nous tournons devant, derrière, auprès de nos collègues de la SNEL, ils vous disent, nous n'avons pas suffisamment de ressources, nous sommes en difficulté. Et puis de deux, l'éclairage public nous coûte très cher, parce que le gouvernement ne paye pas. Il faut trouver une solution pour éclairer ce boulevard.
Avez-vous trouvé une solution en
oui,
tant qu'ingénieur
civil? Oui, bien sûr. Ingénieur civil, il y réfléchit, il dit, ok, je vais trouver une solution parce qu'il y a des ressources disponibles. Et une des ressources, c'est le soleil que Dieu nous a donné gratuitement. Et l'ingénieur civil de la CGT...
Vous avez utilisé l'énergie solaire pour éclairer le boulevard.
Il conçoit un projet de 1100 poteaux qui sont alimentés essentiellement à l'énergie solaire, avec possibilité de faire l'hybridation, c'est-à-dire que quand la SNEL sera en mesure d'apporter du courant électrique, ça peut faire un fonctionnement dual. L'ingénieur civil conçoit ce projet-là. Aujourd'hui, nous avons dans la ville de Kinshasa, sur 15 km, 1100 poteaux d'éclairage public alimentés à l'énergie solaire qui ne coûte rien, ni à la SNEL, ni à l'État, et aucune facture. Et lorsque l'ingénieur civil innove, vous savez, les gens disaient, moi je connais des collègues de la SNEL qui disaient cette affaire-là, ça ne marchera pas. Mais le jour où la première lumière est sortie, j'ai entendu un collègue dire, vous nous avez sorti du noir, parce que nous ne savions pas comment éclairer ce boulevard. Et aujourd'hui, vous avez suivi, et Bokassa, entre Bokassa et Saint-Deux et Militant, il y a eu son éclairage public solaire. Et quand vous allez en Djili Sainte-Thérèse, entre Djili et Dokolo, au niveau de Kimaseke, il y a ces lumières qui sont entrées. J'ai appris qu'à Kindu, il y a de l'énergie solaire.
Solaire également.
Et il semble que bientôt, à Kalemi, il y aura aussi de l'énergie solaire. C'est parce qu'un ingénieur s'est assis, il n'a pas, à Kananga, j'apprends qu'à Kananga, on veut concevoir, on est en train aujourd'hui de produire de l'énergie à partir de... C'est parce qu'un jour, un ingénieur civil a dit, je ne veux pas me mettre à pleurer avec la ressource
mais,
qui existe.
Mais,
qu'est-ce que je
monsieur,
peux faire?
Monsieur et Munga, j'ai une... voilà on a appris par exemple qu'à Dubaï, il y a des bâtiments construits dans l'eau, tout ça. Est-ce que les ingénieurs civils congolais peuvent également nous produire de tels bâtiments d'ici 2030?
Et je crois que c'est le travail que... C'est un défi pour les ingénieurs, les architectes, de pouvoir s'inspirer de ce genre de cas pour que nous puissions aussi concevoir des ouvrages dans le domaine du bâtiment qui sont des ouvrages qui rentrent dans le cadre du principe du développement durable. Je crois que ce sont des défis. Nous devons cesser de pleurer. Nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec les ressources disponibles.
D'accord.
Parce que les économistes disent que les besoins sont illimités, mais les ressources seront toujours limitées. Et le rôle de l'ingénieur, c'est de pouvoir travailler,
avec
optimiser les ressources disponibles. Voilà le défi.
D'accord. Des questions ou des préoccupations dans la salle? Allez-y. Votre nom et rapidement
oui.
La question.
Merci beaucoup Radio Capi. Merci également à la SIC. Merci aussi aux ingénieurs du bâtiment et des travaux publics qui sont présents ici. Merci également à tous les étudiants qui se sont déplacés ce matin pour assister à cette grande réunion. J'ai dit, ou encore mieux, la promotion de l'ingénieur de la République démocratique du Congo. Je suis Monsieur Valemanga et je suis ingénieur géomètre topographe de formation et aussi spécialiste en matière de transport multimodal et aussi de sécurité routière. Donc chacun de vous, avant d'arriver dans cette salle, je l'ai pris en charge à partir de sa maison parce que je l'ai assuré donc de la sécurité routière.
Alors, quelle est votre question, Monsieur Valemanga?
La préoccupation est unique. Je voudrais parler de l'union de tous les ingénieurs de la République démocratique du Congo. J'ai entendu, merci pour la promotion des associations, mais ici, c'est un problème de vie de tous les Congolais. L'ingénieur s'occupe, bien sûr, de la vie publique et trêve aux guerres des institutions qui forment les ingénieurs. Je voudrais que le président Charles Médard Ilunga, Munga qui sont devant nous, ainsi que Michel Oyumbo. Moi-même, je suis le président de l'association des ingénieurs du bâtiment et des travaux publics. Il y a également la fédération des ingénieurs géomètres topographes. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions avoir ce que le Parlement est en train, en ce moment ici, de cogiter sur la vie de la profession. Nous étions jeudi passé, j'ai entendu quelqu'un ici, nous sommes au niveau de la commission socioculturelle et des infrastructures. Nous devons mettre notre intelligence pour que nous puissions donner, en tout cas, un ordre.
D'accord.
Qui doit régir notre profession et ça va aller de soi pour que les générations futures puissent jouir, bien sûr, des normes que nous venions de parler à la première phase de cette émission et pour que tous ceux qui viendront après nous puissent construire dans la paix et surtout en respectant toutes ces normes-là pour une reconstruction, en tout cas, normale de notre pays. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, dépasse tout notre entendement. Nous avons appris la théorie. Et le dénominateur commun de tous les ingénieurs, c'est quoi? La conception et la mathématique. Tout le monde doit se mettre ensemble pour que nous puissions avoir un ingénieur et non des ingénieurs suivant des filières différentes. Regardons dans la même direction pour que notre pays puisse gagner et que notre peuple cesse de pleurer avec des bâtiments, des ponts qui tombent. Merci en tout cas.
Merci Valemanga. Bonjour. Oui, votre question.
Merci Claudien Moulimuloir, président de la Société des architectes du Congo. Donc je profite de me retrouver de ce côté avec une liberté de parole. Parce que quand j'étais devant, j'étais limité à la question. Ok. Une première observation par rapport à l'intervention de l'ingénieur Tchassouma. En ce qui concerne la proposition de loi qui est actuellement au niveau du Parlement, j'aurais souhaité effectivement qu'on reconnaisse, quand bien même que la SIC est derrière ou a soutenu, a porté le projet, mais de par la Constitution, c'est les honorables qui ont introduit le dossier qui sont porteurs. Donc on devait s'effacer et ne pas présenter cette étiquette-là comme si on dénuait ou on ne respectait pas la Constitution. Donc la proposition est bien portée par les honorables députés. Nous pouvons les assister ainsi de suite. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, c'est effectivement pour revenir à cette question d'inclusivité. Il serait vraiment intéressant que la SIC nous montre un visage plus cohérent. Nous avons passé une heure de débat où effectivement on a senti ces clivages-là. Nous ne souhaitons pas cela. Et dans le rôle des ingénieurs dans le développement, moi je suis resté dans ma soif parce que je pensais réellement avoir une réponse claire par rapport à l'implication des ingénieurs sur le développement du pays. Nous avons un défi effectivement sur le problème des ressources humaines d'abord. Et un exemple que je peux donner, que lorsque nous avons commencé, nous en tant que Société des architectes du Congo, dans de filières pour renforcer la capacité de l'ISAU et de l'INBTP, nous avons porté des projets financés par la Wallonie. Aujourd'hui, nous avons des doctorants et nous avons donné sur le premier module de 500 000 euros, sur deux doctorants de l'ISAU, un doctorant de l'INBTP. Donc, sans regarder que c'est un ingénieur BTP ou c'est un architecte. Mais le but, c'est effectivement la relève, parce que nous devons regarder vers le devant, vers le peuple congolais qui nous regarde. Il y a vraiment cette question-là. Et deuxièmement, nous avons obtenu un autre financement de 500 000 euros qui commence par un centre de recherche sur l'aménagement du territoire qui sera basé à l'INBTP. Ce sera lancé l'année prochaine, le financement est obtenu, 500 000 euros, et nous appelons tout le monde, architectes, urbanistes, ingénieurs, à fédérer, à participer pour le développement
d'accord.
de la RDC.
Merci.
Merci.
Voilà, je m'en vais rapidement. Oui, madame, et puis je vais donner la parole aux invités, aux intervenants qui sont là.
Oui. Merci beaucoup pour la parole. C'est Christiane Chama, je suis journaliste. Oui, j'aimerais poser la question par rapport aux intervenants qui sont passés en premier lieu. Et les intervenants qui sont là présentement, tous ont parlé de la conception. Les architectes ont parlé de la conception. Les ingénieurs BTP ont parlé aussi de la conception. Les ingénieurs civils parlent de la conception. Alors, je voudrais savoir à quel moment les ingénieurs civils, dans la construction d'un ouvrage, à quel moment les ingénieurs civils interviennent, les architectes interviennent et les ingénieurs BTP aussi interviennent. Aussi, si, par exemple, dans cette construction de l'ouvrage, l'ouvrage présentait des défauts 3 ans, 4 ans après,
qui en sera responsable?
Oui, qui serait le responsable? Parce que vous devez travailler en collaboration, comme nous devons de l'entendre ici. Merci.
D'accord. Une autre dame veut poser la question. Bonjour. Votre nom et la question?
Bonjour, je suis Fallon Kenyé, architecte. J'ai le privilège d'avoir de parler dans cette grande rencontre des professionnels beaucoup plus du secteur du bâtiment. Et aujourd'hui, cette émission est une opportunité pour les différents interlocuteurs, les différents plutôt auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent, de connaître effectivement le rôle de chaque acteur dont on a parlé, que ce soit l'architecte, que ce soit l'ingénieur, qu'il soit technicien spécialisé, BTP ou génie civil, l'ingénieur topographe, l'urbaniste. Il est important aujourd'hui de donner une explication ou d'ouvrir, d'éclairer la lanterne de tout le monde sur qui fait quoi. Parce que aujourd'hui, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, parce qu'on a les ingénieurs BTP et les ingénieurs civils qui se retrouvent dans une guerre d'esprit où qui fait quoi et qui fait qui. Et comme ma prédécesseur venait de le dire, chacun intervient dans la conception. Mais quelle est la conception de l'architecte qui est, comme nous le disons, maître de l'œuvre? Comment intervient également l'ingénieur en bâtiment dans sa conception et comment intervient l'ingénieur civil également dans sa conception? Et aujourd'hui, on parle du développement durable. Quelle est l'intervention ou l'apport de ces différents acteurs dans le développement durable de notre pays aujourd'hui?
D'accord.
Parce que, en effet, je veux conclure, même nos interlocuteurs ou nos auditeurs ne connaissent pas effectivement c'est quoi le développement durable. Alors pourquoi nous parlons du développement durable et qui fait quoi et quel est l'apport de chacun en tant qu'acteur de construction, architecte, urbaniste, topographe, ingénieur et tout consort dans l'apport et dans le développement durable de la République démocratique du Congo. C'est ça le plus important aujourd'hui. Merci.
D'accord, merci. Monsieur Charles Médard Ilunga et puis les autres intervenants vont aussi s'exprimer. Il nous reste 10 minutes avant la clôture de
oui,
cette émission.
Moi, je soutiens qu'il n'y a vraiment pas de confusion à faire. Nous sommes tous pour la synergie des corps et nous sommes tous pour que chacun des corps se spécialise, se professionnalise, pour que la République trouve son compte. Ça, c'est vraiment ce que nous cherchons. Bien sûr, nous voulons que cela se passe dans le respect des uns des autres. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être que nous ne pouvons pas venir. La délimitation entre les corps d'ingénieurs est aussi claire. Je crois que il y a des choses que peuvent faire les ingénieurs civils, les choses que peuvent faire les ingénieurs techniciens, les ingénieurs BTP, et nous en avons la preuve. Donc nous, à la CGT, à l'Agence des grands travaux, nous utilisons aussi bien les ingénieurs BTP que les ingénieurs civils. Nous savons les limites des uns et des autres. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est la professionnalisation des uns et des autres. Donc ça, c'est d'abord un débat qui, normalement, n'a pas sa place. Nous devons tous travailler à l'excellence technique. L'ingénieur de manière générale, l'architecte également. Tout ce corps, il travaille avec des contraintes. Les contraintes sont d'ordre technique, d'ordre environnemental, vous parlez de développement durable, les ingénieurs, les architectes, dans tout ce qu'ils font, ils tiennent compte de ça comme étant une contrainte majeure.
Vous travaillez pour les générations présentes et
absolument.
Vous pensez également aux générations futures.
Nous appréhendons toutes ces questions, des questions liées à l'énergie, des questions liées à l'environnement, à la pollution, des questions liées au changement climatique. Donc ce sont des questions que nous abordons dans tout ce que nous faisons, et aujourd'hui on parle de plus en plus de l'ingénierie environnementale. Donc c'est des questions qui sont quotidiennes. Et j'ai dit qu'il y a aussi une autre contrainte, c'est la contrainte économique. C'est là que j'ai dit que l'ingénieur civil particulièrement, intervient aujourd'hui et dans beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des études qui hier faisaient une année pour terminer une étude. Aujourd'hui, à l'agence, avec les différentes innovations qui sont apportées, beaucoup d'études peuvent faire 2 mois, 3 mois, grâce tout simplement à des innovations, à innover en termes de méthodes, innover en termes d'équipements nouveaux, d'équipements modernes, et tout ça permet à ce que la République gagne et économise. Donc les études qui ont été très chères hier, de plus en plus, deviendront donc moins chères. Ça, c'est donc pour l'intérêt de la République.
Oui.
Donc je crois que le débat est assez clair, et il n'y a pas du tout de la place pour la guerre. Mais j'interviens aussi en disant que les projets, je l'ai dit, la réussite des projets, c'est d'abord la collaboration des parties prenantes. Dans un projet, il y a un maître d'ouvrage, il y a des maîtres d'œuvre, des conceptions, des travaux, et il y a des entreprises, des entrepreneurs. Donc la collaboration intime des uns et des autres, la complexité des projets, les compétences des uns et des autres, c'est nécessaire de pouvoir en parler. Et c'est comme ça que je ne termine pas en disant ceci. Les architectes l'ont dit. À la SIC, nous mettons un accent particulier sur la charte déontologique. On ne devient pas ingénieur quand on le veut. Donc il y a une charte déontologique, et nous disons que l'ordre qui naît, qui est en train de naître, va permettre à ce qu'on protège réellement la République à travers les pratiques déontologiques, à travers et même toutes les questions des capacités. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des titres, des diplômes, mais les diplômes ne veulent encore rien dire. Aujourd'hui, la conception anglo-saxonne, c'est pas la conception de présenter les diplômes. C'est plutôt de montrer ce de quoi on est capable.
Capable de faire. Merci, M. Charles Médard-Ilunga. M. Jean-Bernard Tchassouma.
Oui, je vais rassurer.
Par rapport à votre rôle dans les développements, qu'est-ce qui reste à faire pour que les ingénieurs civils
participent
réellement au développement du pays.
Président de la SAC, je vais lui rassurer que, effectivement, cette proposition de loi est portée par les ingénieurs civils. Mais elle est une initiative de la SIC. Alors, je voudrais rassurer pour la deuxième préoccupation du président de la SAC.
Vous voulez dire qu'elle est portée par les honorables députés.
Députés, ingénieurs civils, mais c'est un ordre qui rassemble tout le monde. Vous avez dit que vous n'avez pas compris l'importance de l'ingénieur civil dans le développement. Je voudrais vous rassurer qu'il y a 4 secteurs porteurs de développement où l'ingénieur civil doit absolument s'impliquer. C'est l'eau, l'électricité, les infrastructures et les mines. Nous devons nous impliquer et nous sommes déjà impliqués là-dessus. Si les politiques suivent les 4 secteurs une fois pris en charge, on ne va même pas arriver à 2030 pour l'émergence de la RDC. Et puis, la dernière préoccupation, au fait, les bureaux d'études, parce que on semble dire qu'il y a une confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Quand on veut construire un ouvrage, un immeuble, il y a des bureaux d'études qui initient ce projet. Et au sein des bureaux d'études, il y a les techniciens en technique spéciale, il y a les ingénieurs civils, il y a les architectes, c'est toute une équipe. Même quand on décide finalement d'attribuer le marché à un entrepreneur, au sein de cet entrepreneur, tous ces corps de métiers existent. Donc nous travaillons. Ce combat n'a pas de sens. Nous nous retrouvons les topographes, les ingénieurs techniciens, les ingénieurs civils, et ceux qui font le fonctionnaire dirigeant. Des fois c'est un architecte, des fois c'est un ingénieur civil. Mais nous travaillons ensemble. Ils sont soit dans les bureaux d'études, soit dans l'entreprise. Donc il y a pas de débat.
Voilà. Monsieur Mounga Malembe, on va bientôt terminer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre apport dans les développements du pays d'ici 2030?
Je remercie le président de la SAC qui nous a pratiquement édifiés par toutes ces initiatives qu'ils ont prises. Et je pense que de notre côté, nous pensons que le développement, et tout à l'heure j'ai dit, lorsque nous axons toutes les contributions au développement en termes d'argent, nous n'irons pas loin. Alors, je cite quelques exemples de comment nous sommes en train de réfléchir, et particulièrement au niveau de grands travaux, pour contribuer au développement de la recherche au niveau de l'université. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir avec des ingénieurs qui sont au sein de l'entreprise sur un logiciel de formulation des enrobés. Et nous sommes très avancés et nous avons décidé d'associer l'université, notamment au travers des étudiants qui sont en train de terminer leurs études. Nous pensons que c'est déjà là.
Concrètement, sur le terrain, est-ce qu'on aura des très bonnes routes qui auront une durée de vie?
Très bonnes routes,
des ponts, tout ça, des bâtiments, des passerelles.
J'informe les étudiants finalistes et les étudiants qui sont ici que si Dieu nous prête vie et que toute chose allait comme il se devait, je crois d'ici quelques mois, une année, ils auront la possibilité d'aller dans le cadre de leur formation scientifique et technique assister à la mise en œuvre du tout premier pont à Auban qui sera réalisé dans ce pays. C'est à la frontière entre la RDC et la Zambie et c'est une conception de leurs aînés qui sont avec nous à l'Agence congolaise de grands travaux. Je crois que c'est là des outils de développement. Vous vous souviendrez que dans la ville de Kinshasa, pour la première fois, les gens sont passés de la phase théorique à la phase pratique de la réalisation des ouvrages en béton précontraint qui ont été réalisés. Voilà un peu de quelle manière nous réfléchissons.
D'accord.
Pour que la formation de nos cadres techniques puisse être implémentée par de recherches et des actions audacieuses que nous entreprenons en tant que responsables des études et dans le cadre des études, particulièrement au niveau de l'Agence congolaise de grande.
Merci. Merci, monsieur Mounga Lembe. Merci à tout le panel, à tous les intervenants dans cette émission de la vie au quotidien et merci à vous d'avoir participé à cette émission en direct de la salle Paradis M sur l'avenue de la Libération dans la commune de Lingwala ici à Kinshasa et merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le pays et même dans le monde sur www.radiokapi.net. Nous disons à l'équipe de production Sylvain Matundu, Sylvain Baugwere, Tati Mapoukou, Nounou Ngoy, Alain, voilà, et toute l'équipe de production, merci et à vous tous. On se retrouve prochainement pour un autre numéro d'Okapi Service. À la prochaine.